Au menu de notre club cet après-midi, les liens complexes des enfants avec la nature, du théâtre et de l'humour pour comprendre la théorie de Darwin, les prix Diderot et une drôle de rencontre scientifique avec Augustin Trapenard. Je vous présente mes invités dans un instant. Hier se tenait à Rabat au Maroc la finale internationale de ma thèse en 180 secondes. La gagnante de cette finale à la une de la science avec nous, Axel Villard. Bonjour.
Bonjour Mathieu. Oui, elle s'appelle Désirée Koenig. Elle vient de Suisse et elle a charmé le jury avec son calme et ses poissons aux nageoires qui repoussent. Elle est en direct dans un instant avec nous.
Voilà pour le sommaire de cette tête au carré qui a été préparée par Mahmoud Mebarek avec Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Darwin au théâtre, les enfants et la nature, les prix Diderot dans notre club avec mes invités, l'historienne Valérie Chansigo, la biologiste et comédienne Marie-Charlotte Morin, le metteur en scène et comédien Alexandre Tesch et la muséologue Delphine Greenberg. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bienvenue. Marie-Charlotte Morin et Alexandre Tesch, faire rire avec la théorie de l'évolution et Darwin, c'est donc visiblement possible.
Et oui, mais en fait n'importe quel sujet scientifique peut être drôle, il suffit d'avoir du talent.
Ouais. Quelle modestie, ça commence bien. Alexandre Tesch, vous travaillez avec cet animal-là tous les jours?
Pas tous les jours, justement.
Non, on pourrait pas.
Dans tous les cas, oui, je rejoins Marie-Charlotte pour dire que tous les sujets peuvent être traités de manière comique.
Ouais.
C'est pas très drôle ce que je dis, mais...
Ça s'appelle Tout le monde descend.
Tout le monde descend.
C'est une pièce de café-théâtre et une comédie donc de vulgarisation scientifique que vous allez jouer en octobre à Strasbourg et à Paris. Valérie Chansigo, vous publiez aux éditions de La Chaux et Nestlé Enfants et nature à travers trois siècles d'œuvres pour la jeunesse. Les relations entre les enfants et la nature ont été très peu explorées jusqu'à maintenant ?
Très mal exploré, je dirais plutôt. C'est-à-dire que la nature est omniprésente dans les ouvrages pour la jeunesse. Pourtant, dès qu'on parle de la relation entre l'être humain et la nature, on ne parle jamais des enfants.
Ouais.
Et cette contradiction m'a interpellée.
Voilà, et vous publiez un livre magnifique avec une très belle iconographie. Delphine Greenberg, Les enfants et l'environnement, bah, c'est également votre thème, hein, avec lequel, en tout cas, vous avez été récompensée lundi avec le prix Diderot Curien. Vous travaillez donc dans le domaine de la culture scientifique, en particulier auprès des plus jeunes.
Oui, les enfants, si on ne parle pas beaucoup de la nature et les enfants, eux, parlent beaucoup de la nature, en tout cas tous ceux que je rencontre, et la période qu'ils vivent, dans laquelle ils grandissent aujourd'hui, est une période qui leur pose beaucoup de questions.
Ouais. On verra ces questions avec vous hein, et la façon dont vous travaillez avec eux autour de la science. Et puis donc en fin de rendez-vous, vous verrez également un nouveau rendez-vous avec le très étrange Augustin Trapenard qui sera confronté, vous le verrez, aux ondes gravitationnelles. Voilà pour le menu de ce Club des Têtes au Carré et vos messages bien sûr. Vous pouvez nous rejoindre sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Hier soir, donc, à Rabat, au Théâtre National Mohamed V, se tenait la finale internationale du concours Ma thèse en 180 secondes. 20 doctorants francophones venus de 10 pays qui sont affrontés sur scène dans ce concours, là aussi, de vulgarisation. Ils avaient 3 minutes, pas une seconde de plus pour séduire, faire rire aussi peut-être, et surtout faire passer au mieux la science qu'ils font au quotidien. Et nous sommes avec la gagnante de cette finale internationale, Désirée Koenig, qui est toujours, évidemment, au Maroc. Bonjour à vous.
Bonjour.
Félicitations, vous avez donc raflé hier le premier prix du jury. Vous êtes doctorante à l'université de Fribourg en Suisse. Alors je voudrais juste vous signaler que Marie-Charlotte Morin est avec nous. Vous la connaissez certainement puisqu'elle a gagné la finale nationale. Et puis vous êtes arrivée deuxième sur la finale internationale au Québec en 2014. Marie-Charlotte. Désirée Koenig, quel est, alors ça c'est un peu notre rituel, le titre de votre thèse, mais alors version vraiment non vulgarisée hein.
Mécanisme de régénération des organes chez le poisson zèbre.
Ah oh bah ça va.
Ça va.
Hein, c'est un bon titre, assez grand public. Axel.
Vous étiez confiante hier en sortant de scène après vos 180 secondes à vous?
Je dois dire qu'en sortant de scène, je ne me souvenais de plus rien du tout.
C'est vrai, il y a eu un grand blanc.
Oui, c'est généralement ce qui m'arrive quand je suis sur scène. Je parle. Je sors, je sais que j'ai parlé, mais je ne me souviens pas de grand-chose.
Marie-Charlotte a confirmé en disant oui, c'est exactement comme ça.
C'est vrai, ça vous a fait ça aussi?
Ah, pareil, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quelque chose?
Bon, mais ça vous a bien réussi, Désirée, quand même, apparemment, alors.
Oui, bon, effectivement, je m'y attendais pas du tout, mais c'est un grand honneur pour moi.
On va écouter un petit extrait de votre présentation.
Les poissons zèbres sont des poissons d'aquarium plutôt communs, d'à peu près... cette taille. Mais ils sont très spéciaux parce qu'ils peuvent faire repousser la majorité de leurs organes, comme leur cœur, leur moelle épinière et leur nageoire. Et c'est ça le sujet de ma thèse.
Alors, ces poissons zèbres qui vous intéressent, pourquoi ils vous intéressent en particulier, Désirée Koenig ?
Eh bien, je trouve que, de façon générale, la capacité qu'ont certains organismes à régénérer si bien leurs organes est vraiment fascinante. Et aussi, c'est vraiment utile, je pense, à long terme, aux humains en général. Je pense que au moins une partie de nos organes pourrait régénérer, si seulement on savait comment leur dire de régénérer.
Et c'est ce qui vous intéresse ?
Oui, exactement, de comprendre comment d'autres organismes régénèrent pour voir quelle est la différence avec les humains et est-ce que ça serait possible.
Vous avez pris l'exemple d'un doigt coupé, hein, justement, dans votre présentation. Imaginez qu'effectivement, à terme, on puisse s'inspirer du poisson zèbre pour régénérer un doigt. Ben, vous travaillez quasiment dans le même domaine également, Marie-Charlotte Morin.
C'est le même domaine.
C'est ça, ouais.
Nous, on part, c'est un autre modèle, c'est élégant, c'est un petit verre. Et moi, je pars d'une cellule qui est dans le rectum et qui se transforme en neurone. Voilà. C'est pas un organe entier, c'est pas une nageoire, mais oui, c'est tout à fait le même domaine.
Et c'est ça qui vous a rendu célèbre. On en reparlera
tout à l'heure. Est-ce qu'au jour le jour, quand on travaille sur des messagers chimiques qui déclenchent ces régénérations, pardon, on pense à l'espoir global de pouvoir soigner des gens. On a ce rapport entre l'un et l'autre au quotidien ?
Au quotidien, peut-être pas. Je dois dire que quand on est au microscope depuis 4 heures, oui, on n'y pense pas forcément, mais c'est vrai que ça aide aussi à se remotiver, parce qu'une thèse, c'est long, une thèse, c'est difficile. Et du coup, ça, c'est toujours motivant de se souvenir. Et c'est aussi pour ça que ça me fait plaisir d'en parler à des gens qui ne sont pas des spécialistes, parce qu'eux me rappellent à quel point c'est quelque chose d'exceptionnel. Mmh.
Quelle était l'ambiance hier au Maroc ? Racontez-nous un petit peu comment vous avez vécu cette soirée qui était vraiment pour vous l'aboutissement d'un long processus, hein, aussi. Vous avez passé toutes les étapes, Désirée Koenig ?
Oui, alors la soirée a été vraiment magnifique. D'abord, j'ai adoré écouter les présentations de tous les autres doctorants, c'est toujours fascinant de découvrir de nouveaux sujets. Et puis, on avait un public qui était vraiment sympa, un public qui semblait vraiment intéressé par ce qu'on racontait. Et ça a été une soirée magnifique, oui.
Est-ce que vous allez continuer dans cette voie après la victoire de la vulgarisation et du partage de la science ?
Bien, j'aimerais bien, oui. J'ai encore une année de thèse à finir. Mais après ça, j'aimerais bien continuer dans la communication scientifique.
Ah oui, donc arrêtez vraiment votre travail de recherche ?
On verra. C'est bon, pour le moment, je me concentre sur finir ma thèse. Oui. Mais c'est vrai que si j'ai l'opportunité d'aller plus dans la communication scientifique, j'ai l'impression que j'ai plus un don pour communiquer de la science que pour faire de la science.
Bon, Marie-Charlotte Morin, elle a pris sa décision également comme vous d'ailleurs, hein, c'est ça, hein.
Oui.
C'était de se dire, j'arrête la recherche.
Oui, bah, avant de faire le concours, hein, je pense que déjà on est assez lucide sur les postes et malheureusement l'avenir de la recherche. Les coupes budgétaires de ce printemps nous ont encore confirmé que finalement, c'est bien d'aller chercher aussi un peu ailleurs.
Ouais, la situation est la même en Suisse ?
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... C'est pas trop difficile de trouver une place de doctorat et une place de post-doc juste après, mais... Au bout d'un moment, c'est limité et il y a beaucoup de gens qui ne trouvent plus de place. Et c'est vrai que ça peut être un peu décourageant à voir parfois. Mmh. Et du coup, mais c'est aussi juste pour moi une passion de communiquer la science. Donc, je pense que c'est ma voie.
Bon, Alexandre Thèche, vous avez entraîné les thésards pour ma thèse en 180 secondes. Ouais. C'est comme ça que vous avez rencontré Marie-Charlotte à Strasbourg.
À Strasbourg, c'est ça. Ça fait, ouais. C'est la troisième année aussi que j'encadre les étudiants qui se préparent à ce concours. J'avais une question pratique. Comment avez-vous préparé votre prestation la demi-heure avant? Des exercices de respiration, du vin blanc?
Décidément, tout le monde du lupinard aujourd'hui dans le temps de son micro.
Alors, au Maroc, pas tellement du vin blanc. En principe, on n'est pas supposé servir d'alcool, même si on en trouve. Mais on était dans les loges avec les autres doctorants. Mmh. On a un peu écouté de musique, on a mangé quelque chose. Et puis, voilà.
Donc, vous n'aviez pas une préparation spécifique
Pas le jour même, non.
Pas ce jour même, d'accord.
Oh, il essaye de se vendre.
Désirée Koenig, est-ce qu'il y a une branche de la vulgarisation ou une façon de vulgariser qui vous attire plus que les autres ?
Pas particulièrement. Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié d'être sur scène, comme ça, de parler. Mais je serais aussi intéressée par les formes écrites, par peut-être dans le domaine du journalisme, mais il y a aussi d'autres branches qui sont très intéressantes et assez nouvelles, comme YouTube, par exemple. Mmh. Il y a beaucoup de chaînes en anglais de vulgarisation scientifique sur YouTube. Il y en a beaucoup moins en français, et je pense qu'il y a du potentiel là. Mais il faut apprendre à éditer des vidéos.
Bon, bah écoutez, on en reparlera d'ailleurs, je crois, dans quelques minutes avec le camarade Axel Villard. En tout cas, Désiré Koenig, j'ai envie de vous applaudir. On peut le faire d'ailleurs autour de ce micro. Voilà.
Félicitations.
Un peu de public en plus qui s'ajoute à celui donc, de Rabat au Maroc. Et puis passez nous voir avec grand plaisir quand vous serez de retour en Suisse. Faites un petit crochet par la tête au carré. On vous accueillera avec grand plaisir. Et encore félicitations puisque vous êtes arrivé finaliste de ce concours international de ma thèse en 180 secondes.
Gagnante même.
Oui, absolument. Et qu'est-ce que j'ai dit, Axel?
Finaliste
et gagnante, absolument, lauréate. Et on peut regarder les vidéos assez rapidement, je pense, sur le site du CNRS ou de la CPU.
Et sur ma thèse en 180 secondes, pour l'instant, voilà. Maroc.
Merci beaucoup, Désiré Koenig. À bientôt.
Merci.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le premier pancréas artificiel vient d'être autorisé aux États-Unis, composé d'un boîtier électronique couplé à un capteur mesurant la glycémie à une pompe à insuline intraveineuse. Ce n'est donc pas un faux organe à proprement parler, mais son rôle est le même. Il régule le métabolisme du glucose à la place du pancréas défaillant des personnes malades. Un espoir donc pour les 22 millions de diabétiques de type 1 dans le monde. Malgré les quelques désagréments liés au capteur sous-cutané, pour l'instant, pas de prévision pour le marché français. Les bourdons sont heureux et motivés lorsqu'ils viennent de butiner du nectar. Cette drôle d'affirmation nous vient des chercheurs londoniens. Ils ont étudié le comportement de bourdons juste après leur avoir donné une solution d'eau sucrée. Ils étaient majoritairement plus actifs, mais aussi plus audacieux et plus optimistes dans leur recherche d'autres sites de nourrissage que des bourdons non nourris. Si les chercheurs interprètent cela comme une forme de bonheur, c'est que l'ensemble de ces comportements s'arrête lorsqu'ils ajoutent un inhibiteur de dopamine, l'hormone communément associée au bonheur et à la motivation. Et puis enfin, deux idées de sortie scientifique pour ce week-end. Le campus flambant neuf de Jussieu, tout d'abord dans le 13e arrondissement, vous accueille demain pour son inauguration publique après 20 ans de travaux. Les espaces verts, les labos et les lieux de vie, et bien ce nouveau campus de pointe est en accès libre tout l'après-midi, donc demain. Réservation et informations sur le site de l'université Pierre et Marie Curie. Et puis, si vous n'êtes pas parisien, sachez que ce soir se tiendra également la 11e édition de la Nuit européenne des chercheurs dans 12 villes de France, événement nocturne qui vous donne l'opportunité donc ce soir de rencontrer en direct des chercheurs au programme des mini-conférences, des animations pétillantes, des débats pour s'immerger au mieux dans l'univers de ceux qui font la science. Le programme et les villes organisatrices sont disponibles sur le site nuitdeschercheurs-france.eu. Et notre club dans un instant.
Stand up, take a bow, you're wonderful.
Tudor Cinema Club, Are We Ready à l'instant.
La tête au carré. Le club.
1, 2, 3, inspiration, petit pas de pause. 1, 2, 3, expiration. Et on expulse bien tout l'air qu'on a dans les poumons, hein, d'accord? Et si vous voulez augmenter votre vitesse, eh ben vous n'avez qu'à allonger le pas. D'accord, Mathieu?
Avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et dans notre club cet après-midi, les enfants et la nature, Darwin au Café Théâtre, les prix Diderot et une drôle de rencontre scientifique, vous allez voir avec Augustin Trapenard. Mes invités, la conférencière Delphine Greenberg, l'historienne Valérie Chansigaud, les comédiens Marie-Charlotte Morin et Alexandre Tesch, et puis Axel Villard qui est resté avec nous. On se demande bien pourquoi, on va le savoir dans quelques minutes. Vous nous rejoignez avec vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Valérie Chansigaud, on commence avec vous. Vous êtes historienne des sciences et de l'environnement, chercheuse associée au laboratoire CNRS Sphère. C'est à Paris 7, et vous publiez « Enfants et nature » aux éditions de Lachaud et Nestlé, un livre dans lequel vous étudiez les relations entre les enfants et l'environnement. Et c'est le prolongement de toute votre réflexion, hein, plus largement, autour des hommes et de la nature et de l'environnement.
Tout à fait. Forcément, j'allais, tôt ou tard, je dirais, m'intéresser aux enfants, parce que je me suis intéressé à la relation, par exemple, des chasseurs avec cette nature, d'une façon générale de l'être humain et de son impact sur le temps long depuis la préhistoire. Et compte tenu de la place, comme je disais tout à l'heure, occupée par la nature dans les œuvres pour la jeunesse et les discours quand même, qui posent toute une série de questions assez parfois dérangeantes, forcément c'était un sujet que je me devais en quelque sorte d'aborder un jour, surtout qu'il y a une matière iconographique absolument géniale.
Et vous, en tant qu'historienne, vous adorez ça, puisque vous avez beaucoup de soin en tout cas, vraiment à chaque fois de sélectionner des images pour les présenter, et là ce sont des œuvres qui vont de quelle période à peu près jusqu'à aujourd'hui?
18e siècle, enfin même 17e siècle à nos jours. Pour l'essentiel, les images du 19e et 20e siècle, forcément le 21e est assez court. Et j'ai cherché aussi à sélectionner ces images d'un point de vue un petit peu original, c'est-à-dire j'ai préféré prendre des images dont on n'avait jamais vu ou qu'on ne connaît pas, pour provoquer en fait l'étonnement du regard, parce que montrer des images que tout le monde a vues et revues, du style image de Disney, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, je dirais, d'un point de vue didactique, sans compter les problèmes de reproduction.
Oui, absolument. En tout cas, vous avez mis beaucoup de soin à le faire et c'est très réussi. Justement, ces images, ce sont des supports pédagogiques très forts tout au long de l'histoire d'ailleurs, pour en apprendre un peu plus sur les liens entre les enfants et la nature.
La relation entre l'iconographie, le fait de montrer des images et de parler de la nature, c'est une histoire qui s'est toujours tissée à deux, en quelque sorte. Ouais. C'est-à-dire que lorsqu'on part dans les premiers abécédaires imprimés à la Renaissance, qu'est-ce qu'on trouve ? Des images d'animaux, des images de nature, des images de plantes. Et parmi les animaux, ce ne sont pas forcément que les animaux que l'on peut rencontrer en France, en Allemagne, enfin à côté de chez soi. On va trouver des chameaux, des éléphants, des zèbres, et très naturellement, dès cette époque, on va parler aux enfants, j'irais de la même façon, d'animaux domestiques tout à fait ordinaires et d'animaux exotiques tout à fait extraordinaires.
Voire fantastiques aussi.
Voire fantastiques, mais pas... C'est plutôt la nature qui inspire le fantastique que le fantastique qui trouve sa place dans la nature. C'est assez étonnant, ça aussi.
En tout cas, ces animaux servent de support éducatif.
Oui, tout le temps.
Tout le temps
et dans
tous les pays quasiment.
Dans tous les pays. Et à partir du 18e, où il y a une véritable littérature pour enfants qui se met en place, notamment à dimension morale, là aussi, le discours de la relation à l'animal, le rejet, par exemple, de la cruauté, parce qu'on se soucie dès John Locke, au début du 18e, des enfants cruels, parce que si on laisse les enfants s'installer dans la cruauté vis-à-vis des animaux, on est sûr et certain qu'une fois adultes, ils deviendront des adultes cruels. Et ça, bien sûr, on n'en veut pas. Oui. Donc l'idée, c'est de, par des discours, par des représentations, d'amener les enfants à considérer les animaux comme des créatures capables de souffrance, dont il faut tenir compte et agir, je dirais, avec modération par rapport à eux.
Capables de souffrance et capables aussi de faire souffrir, en fait. C'est dans les deux sens.
Oui, on utilise
autour de la morale, en tout cas animale.
Dans Pinocchio, par exemple, c'est un bon exemple, où les animaux, le renard, Renard va pousser Pinocchio à faire des bêtises. Il faudra pas le pousser d'ailleurs énormément. Donc là, l'animal va servir. Mais dans ce cas-là, c'est pas des vrais animaux. C'est-à-dire, c'est plus en quelque sorte des masques, des marionnettes qui ont la forme d'animaux, mais qui ne sont pas en vérité des animaux. Oui. L'idée, par exemple, du petit chaperon rouge et du grand méchant loup, il s'agit pas du tout de parler du loup, ni de près, ni de loin. Oui. Et dans cette histoire, on n'apprend rien de la relation avec les loups. Parce que là, le loup, dans cette histoire, c'est quoi? C'est un homme prédateur qui menace les petites filles et qui risque, effectivement, de s'en prendre à elles. Oui. Et l'histoire est tout à fait claire et sibylline. On l'utilise même au jour d'aujourd'hui, par exemple, avec des enfants qui ont été abusés, pour leur permettent d'analyser ce qu'ils ont vécu à travers cette histoire. Donc ça marche très très bien.
Delphine Greenberg.
Oui, alors moi j'aborde les animaux avec les enfants sur un angle différent du vôtre, c'est-à-dire sur le terrain, en rencontrant, moi je suis pas historienne du tout, mais je rencontre beaucoup d'enfants dans les écoles et une des premières choses qu'on fait, c'est faire la différence entre les animaux des histoires et les animaux réels. Si j'étais un loup, comment est-ce que je ferais? Donc voilà, les deux sont intéressants, mais on fait la différence. Donc par exemple, moi ça m'arrive de faire hurler les enfants pour montrer comment un petit loup qui est perdu dans la forêt retrouve la meute, son téléphone portable. Mais voilà, les deux registres existent.
Mais dans les œuvres pour la jeunesse, cette différence n'existe pas. C'est-à-dire, ceux qui nourrissent en quelque sorte les enfants vont présenter de façon tout à fait indistincte des animaux domestiques, des animaux sauvages, des animaux exotiques, des animaux proches, des animaux totalement imaginaires. Mmh. Et en fait, cette construction, cette différence n'existe pas dans l'ensemble des œuvres, c'est-à-dire pris d'une façon collective. La façon que l'on a de montrer la nature, c'est une sorte de vaste fatras où on trouve de tout.
Axel Villard.
Oui, je rebondis sur la distinction faite entre les animaux des histoires et les animaux réels. Et c'est important de le rappeler tout le temps quand on voit le sort des poissons clowns, par exemple, après le succès du Monde de Nemo.
Bah, vous en parlez justement dans votre livre.
C'est typiquement le genre de choses qu'il faut faire très vite, parce que sinon, après, il y a des catastrophes, même aujourd'hui, écologiques. Ouais.
Ce qui s'est passé. Vous citez cet exemple qui est très intéressant.
C'est-à-dire que le film de Nemo raconte quoi? L'histoire d'un jeune poisson clown capturé pour alimenter le marché des aquariums. La souffrance des poissons dans l'aquarium est parfaitement montrée. Qu'est-ce qu'on a assisté à la sortie de ce film? Un boom des ventes de poissons clowns dont un tiers était pêché directement dans l'océan. Lorsque le Dory est sorti, j'ai vu des analyses des spécialistes qui étaient très très inquiets parce qu'on ne peut pas faire d'élevage du poisson Dory. Ça vient forcément de la nature. Mais on a le même phénomène, par exemple, avec la sortie des 101 dalmatiens. On a observé un boom des ventes considérables de jeunes dalmatiens, sauf que c'est un chien de chasse qui a besoin de courir toute la journée, de parcourir des kilomètres. Et bien sûr, ces chiens, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un boom de vente et quelques mois plus tard, il y a un boom des abandons. Dans un certain nombre de cas, en fait, des euthanasies.
Est-ce que certains animaux profitent de leur popularité justement au sein des histoires? Je pense à la souris qui est quand même l'un des animaux les plus populaires dans toutes les illustrations, les dessins animés ou les films. Est-ce que dans la réalité scientifique, finalement, ce pauvre animal...
Vraiment passionnant parce que là, on voit bien toute l'ambiguïté de tout ça. C'est-à-dire, il y a des animaux omniprésents, la souris, par exemple, mais aussi le cochon, avec Wilbur, par exemple, entre autres. Et c'est des personnages qui sont extrêmement positifs, intelligents, sensibles, enfin bref, très très positifs. Mais on peut difficilement juger d'un impact sur l'attitude globale de la société à l'égard des souris ou des cochons. Oui. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'un enfant va voir un cochon gentil dans une histoire qu'il va tourner la tête devant une assiette avec du jambon dedans. Oui. C'est-à-dire, on fait des choses qui paraissent très proches de la réalité et qui ne le sont en définitive pas du tout.
Il y a des images qu'on voit très rarement dans le monde des enfants, et vous le dites, ce sont les cas de putréfaction, par exemple, des animaux.
Oui, tout le cycle de décomposition des corps.
Ça, c'est vraiment tabou, quasiment. Hein.
Alors, en fait, dans mes recherches, je n'en ai quasiment jamais vu. Je connais un album, en fait, que j'ai rencontré il y a à peu près 28 ans et qui m'a incité, en fait, à m'intéresser à cette question.
Ce sont des images qu'on n'oublie pas, en général.
Oui, mais c'est surtout, en fait, c'est une question passionnante qui intéresse les enfants, qui interpelle justement les enfants. Mais du point de vue de la création éditoriale, on n'en trouve aucune trace. Il faut imaginer imaginer que les éditeurs vous proposaient un livre illustré sur la putréfaction.
C'est pas très vendeur.
C'est pas possible. Alors que ça pourrait très bien trouver son public.
Ouais, Delphine Greenberg.
Alors moi, je rêvais effectivement d'écrire un livre sur les lombriques et ces animaux-là. J'en ai écrit 26. J'ai pas réussi celui-là à le vendre. Ils veulent toujours des chats, des chevaux, etc.
Il faut réhabiliter le lombrique quand même. Voilà. Marie-Charlotte Morin, vous devriez l'aider.
Moi, je fais des goûters partageables avec les lombriques, par exemple, avec les enfants. C'est-à-dire qu'on se débrouille pour trouver des choses délicieuses à manger. Et on a les lombriques sur la table et tout ça. Et donc, par exemple, si on mange des noisettes, nous, on va manger la noisette et on va leur donner... Les enfants vont casser la coquille pour la donner. Et donc, ça, c'est une entrée pour parler ensuite de que devient ce qui ne va pas dans notre ventre. Ouais. Directement.
La question de la mort, elle est abordée comment, en général, dans ces œuvres traitant de la nature, Valérie Chansigaud ?
Alors, de deux façons, on va dire, de deux ou trois façons. C'est-à-dire qu'il y a une surreprésentation des prédateurs. Ouais. Mais d'ailleurs, dans la littérature pour adultes, c'est pareil. Et c'est une façon magnifiée de voir la mort. C'est-à-dire un loup, un lion, un ours, un requin éventuellement, ça va être très, très positif. Mais la réalité de la mort des animaux les plus communs, c'est-à-dire les animaux domestiques, vaches, moutons, cochons, etc., elle disparaît totalement et absolument. Wilbur, le cochon dont je parlais, qui veut échapper à l'abattoir en développant des talents extraordinaires, mais en fait, on ne voit jamais l'abattoir. Même un film comme Chicken Run, où on voit des poulets essayer d'échapper, en fait, c'est totalement irréel, parce que c'est des poulets qui échappent effectivement à l'abattoir inévitable, et ils arrivent dans une sorte d'île paradisiaque où ils vont créer un paradis. Enfin, c'est totalement éloigné de la réalité.
Ça s'appelle « Enfants et nature » à travers 3 siècles d'œuvres pour la jeunesse. Très belle iconographie de ce livre, Valérie Chansigaud, que vous signez aux éditions Delachaux et Nestlé. Vous restez avec nous pour discuter justement avec Delphine Greenberg, prix Diderot cette année.
Si tu reviens, la tête de la voiture.
Jean Cormier, si tu reviens dans le club de la tête au carré, Delphine Greenberg. Vous êtes auteur pour la jeunesse, muséologue et conférencière. Et donc lundi, vous avez reçu avec Alexandre Moati le prix d'Hydrocurien qui a été créé en 2002 par l'AMSTI. C'est le réseau national des professionnels des cultures scientifiques, techniques et industrielles. C'est Étienne Klein qui était président du jury cette année. Et alors vous étiez d'ailleurs au théâtre de la Reine Blanche où se trouveront Marie-Charlotte Morin et son camarade Alexandre Tesch. C'est ça,
ça,
hein?
Ça se croit. Hein.
Ouais. C'est un théâtre dédié à la science, on pourrait dire
science
comme ça.
Et, oui, science et art.
Voilà. Votre métier, c'est quoi exactement? C'est d'enseigner la science,
de développer le goût des sciences, qui existe déjà très très fort chez les enfants. Donc il est là, il faut juste, comme ça, une petite pichenette bienveillante.
Et
comme ça. Et par contre, et les adultes aussi. Moi, je rencontre beaucoup d'adultes, d'enseignants ou de parents qui ont peur de se lancer. Donc là aussi, une autre petite pichenette bienveillante.
Ah, la distribution avec vous.
Une pichenette, voilà. Ouais. Parce que je pense qu'il y a des situations autour de soi extraordinaire pour vivre des moments de science.
Pourquoi c'est important de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge, au fond, à la science, selon vous?
Parce qu'ils sont déjà prêts à ça. Il y a le terrain, il y a l'appétit, il y a le goût. Si on ne le fait pas quand ils sont petits, on s'endort. C'est ce qui m'est arrivé.
Les sciences naturelles, c'est ce qui touche le plus, a priori,
physique
ou pas?
Physique aussi. Ouais. Les cabanes, par exemple. Faites une cabane. Hein. C'est plein de sciences physiques, ça.
Ouais.
Faire tenir les choses ensemble. Des trucs autour de l'équilibre, beaucoup de d'exploration autour de l'eau, enfin.
Ouais. Valérie Chansigaud, les sciences naturelles, hein, vous en parlez abondamment dans votre livre, hein, c'est très populaire, hein, c'est ce qui évidemment est le vecteur.
Ça a toujours été très populaire, mais peut-être encore plus populaire au 19e siècle, ça on se rend pas compte, mais au 19e, il y a eu une passion, en fait. Il était de bon ton quand on était d'un certain milieu, je dirais qu'on avait un minimum de loisirs, de faire de l'histoire naturelle, parfois à très haut niveau.
Oui.
Et bien sûr, il y avait ce goût partagé pour l'histoire naturelle et qui a fortement régressé au XXe siècle sous l'effet de la professionnalisation.
Alors, y a un désir qui n'a pas régressé chez les enfants que je rencontre, en tout cas. Mmh. Dès qu'on en parle, il y a comme une soif.
Mais des enfants de quel âge? Il n'y a pas une différence quand ils commencent à vieillir et atteindre l'adolescence?
Quand ils commencent à vieillir, c'est une drôle.
Oui.
Oui. Alors, je sais pas, peut-être qu'ils se réveillent quand on se rencontre, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, je rencontre des enfants jusqu'au lycée à peu près. Et ils sont peut-être vieux pendant les 10 premières minutes. Après, ça. Sur ces questions-là, il y a l'intérêt direct pour les animaux ou les plantes, mais il y a aussi une perception quand même qu'ils sont dans un moment qui n'est pas toujours drôle au niveau de sur quelle planète je vais grandir, me reproduire, etc. Et donc, ils font le lien.
Marie-Charlotte Morin, petite fille, est-ce que vous aimiez vous balader dans la nature? Est-ce que les vers de terre rencontrés vous passionnaient déjà?
Ah ouais, moi j'ai eu la chance de faire toute mon enfance dans la campagne, un petit village cossu d'Alsace. Et oui, moi, j'étais toujours très intéressée. Et puis mon père m'avait abonné à Science et Vie.
Déjà.
Direct.
Ça a marqué une carrière.
Tout de suite.
Delphine Greenberg, en tout cas, ce prix récompense toutes vos activités parce qu'elles sont nombreuses autour de ce travail. Donc vous avez fait beaucoup de conférences dans les musées. Et puis vous imaginez comment donner à voir la science aussi, hein. Ça, c'est une grande part de votre démarche.
Donc, dans les musées, dans les écoles, dans la rue.
Au travers d'Internet également, vous travaillez beaucoup sur ce support ou pas?
Alors, Internet, ça sert à être contagieux. Peut-être. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, moi je suis toute petite, donc je fais quelque chose dans un endroit local, mais par contre, après je reçois des avis de différents pays, de gens, si on faisait quelque chose ensemble.
On peut aller sur votre site pour voir un petit peu ce que vous faites?
Allez-y.
Oui, par exemple, découvrir l'autopsie d'une couche.
Ah oui.
Hein, ça c'est ce que vous faites, une couche de pipi, on est d'accord?
Ça c'est une expérience, effectivement. Oui, une couche de bébé. Ça vous intéresse ce que je raconte?
Ben, allez-y, bien sûr.
Donc, si vous
je veux savoir ce qui se passe autour de la couche de pipi.
Si vous étiez mon cobaye. L'idée, c'est de prendre une couche et donc objet éminemment important dans une maison, pour que tout le monde dorme bien, enfin que la famille, voilà. Et donc on va essayer ensemble de voir combien de pipi d'expérience peut contenir une couche.
Ah tiens.
Et comme on fait l'expérience sérieusement, donc on choisit voilà la couleur, etc. Et puis le cobaye, donc vous choisissez combien de pipi d'expérience vous mettez dans la couche et ensuite pour vérifier, on va la verser sur votre tête.
Très bien.
Jusqu'à ce que la douche arrive. Donc là, c'est grand éclat de rire. Donc c'est à la fois très sérieux, on est très très pointilleux sur la méthode, mais On s'amuse beaucoup, surtout quand c'est la maîtresse qui fait ça. Et ensuite, deuxième étape, on autopsie la couche, c'est-à-dire qu'on coupe et on regarde tous les différents matériaux, notamment le polyacrylate de sodium et tous les matériaux qui ont servi à constituer cette couche. Et ensuite, toujours vous, mon cobaye, je vais vous mettre la couche dans les mains.
Oui.
Vous allez faire quoi avec ?
Ben, je vais essayer de l'acheter peut-être à un moment, non ?
Ouais, voilà, l'acheter et elle va aller où, la poubelle ?
Ben oui, c'est le problème.
Voilà. Mmh. Voilà. Donc là, on parle du problème que ça pose et du nombre de couches, etc. Et des choses qu'il va falloir inventer.
Le parcours d'une couche.
Le parcours d'une couche et des solutions qui n'existent pas encore d'un point de vue scientifique, technologique. Là, les enfants, ils sont tous partants pour trouver des solutions.
Delphine Greenberg, récompensée donc par le prix d'hydrocurien. C'était donc lundi par l'AMSTI au Théâtre de la Reine Blanche. Et un autre vulgarisateur de science, Axel Villard, qui est avec nous dans ce studio.
Je vais pas
redire
un bonjour, mais oui.
Voilà, qui a l'habitude de débuter cette émission avec la une de la science. Mais cette fois-ci, on va lancer un nouveau rendez-vous. Ça sera écouté tous les mois dans le club de la tête au carré, mais aussi et surtout à regarder en vidéo. Axel, de quoi s'agit-il ?
Oui, puisque certains l'ont peut-être même déjà vu sur YouTube. C'est un format nouveau que je lance avec la chaîne String Theory, qui est une chaîne laboratoire, terrain de jeu d'expérimentation scientifique un peu pop, rigolote. Donc on m'a proposé d'imaginer quelque chose. Alors j'ai dit oui, mais moi je suis pas youtubeur, qu'est-ce que je vais faire ? Et j'ai pensé à ce que je faisais, c'est-à-dire la radio et France Inter. Donc j'ai amené la radio avec moi.
Et France Inter en particulier.
Et là, pour le coup, quelqu'un qui est connu sur France Inter et toutes les voix de France Inter, en fait, c'était mon idée. C'est de dire, bon, la science, surtout dans les médias et bien sûr à la radio où je travaille, elle est cantonnée aux émissions dédiées à la science spécifiquement et on en entend très peu parler dans les autres émissions qui pourtant ont une grande audience. Et donc j'ai dit, je vais hacker tout ça, je vais rentrer dans les émissions un peu de force, donc en récupérant la voix, et je vais y mettre de la science et voilà, ça a donné ça.
Et vous avez fait un travail avec Ronny Véranda, qui a lui aussi bidouillé beaucoup sur Internet.
Je me suis rendu compte que hacker, c'est pas facile. Donc, c'est-à-dire récupérer des émissions, une quarantaine d'émissions pour chaque épisode, tout découper en petits morceaux, remonter les voix des animateurs et en faire quelque chose d'intelligible avec moi comme invité dans l'émission, c'est pas facile. Donc, il fallait un petit peu d'aide à la fois pour construire cet univers et aussi pour faire le boulot. Vraiment, c'est très long. Et donc, j'ai cherché Ronny Véranda, qui est quelqu'un qui m'avait marqué en 2015. Vous l'avez peut-être connu. Il a fait un petit buzz sur Internet avec des détournements de l'émission de Julien Lepers, Question pour un champion. Ça s'appelait Question pour des pépones. Il avait tout découpé, pareil, tout remonté, et c'était hilarant. Donc je me suis dit, il faut que je le trouve. Et comme c'était un anonyme, il a fallu le chercher. Et une fois que je l'ai trouvé, je lui ai proposé. C'est un amoureux de France Inter, et on a fait ça ensemble, voilà.
Et ce sont les ondes gravitationnelles qui ouvrent cette série de Ramène ta science, puisque c'est son titre, sur la chaîne String Theory, et tout de suite sur France Inter, et à voir également en simultané, c'est déjà sur Internet, en vidéo.
Chemise blanche, col ouvert, veste grise, chaîne gourmette, jeans Santiago, moustache de viking, entièrement vêtu de bleu, dans son pantalon de costume rouge comme la couleur de son crâne dégarni. On est physiquement entre Léa Salamé et la grenouille. Ce rayon de soleil, c'est lui, invité exceptionnel dans Boomerang.
France Inter. Augustin Trapenard.
Bonjour Christophe.
Bonjour, moi c'est Axel.
Merci beaucoup d'être là.
Merci à vous de m'avoir invité, ça me fait très plaisir. J'aime beaucoup comme vous êtes habillé, vous aussi vous êtes très beau.
Vous êtes formidable, je dois le dire.
Merci.
Et cet enthousiasme fait chaud au cœur. Qu'est-ce qui vous en jaille de la sorte ? Est-ce que c'est l'évocation de, je sais pas moi, Renaud, le pingouin, le rappeur Donald Trump, le rappeur pingouin ? Honnêtement, c'est quoi ? C'est moi ?
Non mais attendez.
Non mais il faut nous raconter, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez écrasé un hérisson ?
Non mais c'est juste que c'est pas tous les jours que l'occasion se présente de parler d'astrophysique dans une émission comme la vôtre.
Ouais.
Les ondes gravitationnelles, Augustin Trapenard avec vous, ça va être sympa.
Ouais, je le souhaite, oui.
Vous savez depuis combien de temps on cherchait ?
On fait un jeu.
Un jeu ? Ouais. Si vous voulez, allez, un
on
jeu.
Ferme les yeux tous les deux, on écoute ça. Vous connaissiez cette archive-là ?
Oui, c'est moi qui vous l'ai apportée ce matin.
Quand vous l'entendez, vous entendez quoi ?
J'entends la retranscription sonore d'un cataclysme gravitationnel. Ouais. Une perturbation, une onde de l'espace-temps si énergétique qu'elle a voyagé pendant plus d'un milliard d'années avant de nous parvenir, pour nous laisser une chance de l'intercepter. Une onde émise dans les tréfonds de notre univers par la fusion de deux trous noirs 30 fois plus massifs que le Soleil, et qui, en moins de temps qu'il n'en faut pour cligner de l'œil, se sont rejoints pour n'en former qu'un.
Waouh.
Et vous, vous entendez quoi?
Moi j'entends soit ploc, 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 et... soit une sorte de mammifère, ou alors Barbapapa, tiens. Ou Babar. Babar, le roi Babar avec ses formes rondes, vous savez, son air rassurant, paupières légèrement tombantes, regard bleu, attendrissant, profil impérial de roi des éléphants. D'accord ou pas d'accord?
Pas d'accord, parce que en fait c'est bien une onde gravitationnelle, oui. Et c'est même la première jamais détectée en 2015 par des scientifiques américains à l'aide d'un détecteur laser géant de plusieurs kilomètres de long. Et ce signal, c'était un peu comme le Graal pour les astrophysiciens. Il signe le début d'une toute nouvelle ère dans l'observation de l'univers. Avant lui, on ne faisait qu'observer la lumière, les photons. Ouais. Maintenant, on va pouvoir écouter les murmures des étoiles et des trous noirs.
Intéressant.
Vous savez depuis combien de temps on cherchait à les découvrir, ces ondes gravitationnelles?
Vous avez la réponse? Pensez à quoi?
Albert Einstein avait prédit leur existence en 1916 dans ses théories de la relativité générale. Ouais. Il a donc fallu attendre un siècle exactement avant de pouvoir les détecter.
C'est difficile ou pas?
À détecter? Pas du tout, il suffit de tendre son doigt comme ça là. Ouais. Et si vous vous concentrez bien, vous pouvez les sentir. Allez-y, essayez.
Cette ironie constante dont vous faites preuve tout le temps, de qu'est-ce que vous la tenez?
Bon d'accord, ça a été extrêmement difficile. L'onde gravitationnelle est si petite, si infiniment petite, que le déplacement de matière qu'elle génère sur son passage est près de 100 milliards de fois plus petit qu'un atome. Faut avoir sacrément confiance en ce qu'on fait pour construire des détecteurs à 200 millions de dollars, censé chercher quelque chose de si petit et dont on n'est même pas sûr qu'il existe vraiment.
Vous avez confiance en vous, vous?
Moi, oui, ça va. Enfin, je suis bien dans mes bottes, quoi.
D'accord.
Enfin, mais Santiago, pardon. Et ça doit être la moustache de Viking aussi. Ça aide, ça bouge.
Merci beaucoup d'être venu faire un tour dans Boomerang. Merci encore pour cette parole ce matin. Tout de suite, Sonia De Villers et son accordéon qui nous prouve que même quand c'est pas long, c'est quand même très bon.
Je sens que je vous ai un peu vexé, non?
Vous aimez ça faire de la peine, vous, ou pas? Non,
il faut pas le prendre comme ça.
Ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'on en revient toujours à l'égoïsme, la misogynie incarnée, la superficialité, la domination, l'apparat, l'excès. Est-ce que vous êtes vraiment un type bien?
Augustin Trapenard, hacké par vos soins, Axel Villard, pour ce premier rendez-vous de Ramène ta science. Et c'est à voir donc en vidéo dès maintenant.
Sur la chaîne YouTube String Theory, oui.
Voilà, prochain rendez-vous dans un mois.
Oui.
Quelle sera la prochaine
victime? Je peux pas dire.
C'est un voisin de bureau.
Vous lui parlez assez souvent à l'antenne.
Un voisin d'antenne. À plus tard, Axel. Bon week-end et à lundi pour la Une de la Science cette fois-ci. Smas Mousse à l'instant.
La tête au carré. Le club. sur France Inter.
Dernier sujet, tout le monde descend une pièce de café-théâtre, une comédie de vulgarisation scientifique pour expliquer en s'amusant tant qu'à faire la théorie de Darwin. Marie-Charlotte Morin et Alexandre Teche, vous êtes avec nous pour en parler. Marie-Charlotte, anciennement biologiste ou toujours biologiste, comment ça se passe maintenant pour vous?
J'ai passé ma thèse en ce printemps. Et j'ai profité un peu de la vie entre-temps. Et,
oui, voilà. Et après, on vous fait confiance.
Après, bah, on verra. Pour l'instant, je fais ma pièce et, bon, on se marre bien.
Donc, tout est encore possible. Hein. Vous n'avez pas totalement abandonné le monde de la recherche. Alexandre Teche, comédien, metteur en scène.
Oui.
Et formateur de thésard, donc, pour la scène, si j'ai bien compris.
Exactement.
Ouais. Comment vous avez démarré dans ce domaine?
Alors, pour la nouveauté, c'est comédien depuis que je travaille avec Marie-Charlotte.
Ouais. Avant, elle vous a fait monter sur scène.
Elle m'a fait remonter. J'ai joué il y a une quinzaine d'années. Mm-hmm. Et entre-temps, j'encadre des groupes d'enfants aussi, d'ados et d'adultes, j'écris et je fais de la mise en scène.
Tout ça à Strasbourg ?
Sur le territoire du Bas-Rhin.
Très bien, vaste territoire.
Vaste territoire. Et voilà, et pour la nouveauté, c'est que Marie m'a fait remonter sur scène. Oui. Voilà, ça c'est une véritable nouveauté.
Et vous êtes donc à deux pour cette pièce déjà rodée en Alsace. Mm-hmm. Et vous revenez avec plusieurs dates à Strasbourg. La prochaine, ce sera le 5 octobre sur le campus, c'est
ouais,
ça?
À l'université directement.
Ouais, 6-7 octobre pour Strasbourg toujours, au Camionneur cette fois-ci. Mm-hmm. Et puis ensuite à Paris, au Théâtre de la Reine Blanche, 21, 28, 22, 29 octobre, ça dépend des horaires. Voici un extrait justement, le teaser de votre pièce.
Un créationniste, c'est un mec qui croit pas du tout en la théorie de l'évolution. Mais qu'un mec barbu, invisible, au-dessus des nuages, ait pu tout créer en une semaine, ça, c'est beaucoup plus crédible.
Vous aussi, optez pour la religion, accessible à tous, facile à comprendre, et pour toute nouvelle adhésion, un boutin magazine offert.
Des petites variations, appelées mutations, vont apparaître par hasard dans notre ADN. Certaines sont délétères, comme celles qui entraînent cancer, maladies génétiques, cheveux roux. Ah, que des trucs horribles!
Viens pas m'embrouiller avec tes mots compliqués, toi! La poudre qui crame mes arbres, c'est un message de Dieu!
Cette faculté qu'ont les hommes à penser que tout tourne autour d'eux, c'est dingue, hein?
Mais Copernic, ta mère!
Voilà, extrait de Tout le monde descend. Si vous souhaitez vous abonner au Boutin Magazine, il faudra aller voir la pièce. C'est plus drôle de faire du théâtre que de la biologie, Marie-Charlotte Morin?
Ah ouais, c'est quand même plus drôle. Bah, je dis pas que c'est intéressant, hein, la biologie, mais on se marre moins quand on fait pour la 10e fois une expérience qui marche pas que quand on monte sur scène, hein, c'est sûr.
Certes. C'est l'expérience de ma thèse en 180 secondes qui vous a vraiment donné envie là, de passer le pas et d'aller plus loin?
Bah, clairement, j'avais envie de faire de la vulgarisation après, parce que ça j'avais un peu pris goût. Alors, exactement comme la gagnante de cette année, je me suis dit, je vais faire une vidéo YouTube.
Désirée Koenig.
Voilà. Ouais. Et en fait, Alex est venu me chercher, comme on s'était rencontrés aux formations de ma thèse en 180 secondes. Il m'a dit, mais non, regarde, t'as pris goût à la scène, on va faire une pièce. Et c'est là que l'aventure a commencé. J'avais déjà un texte d'une dizaine de pages et avec Alex, on a écrit la suite. Et il m'a bien aidé pour faire l'adaptation théâtrale, à me dire, là, c'est chiant, Marie, on va mettre un dialogue. Voilà,
ouais. Donc vous aviez un œil critique, vous qui n'êtes pas scientifique du tout, Alexandre Teche?
Pas scientifique du tout. Depuis que j'ai rencontré Marie, je lis Sciences et Vie Junior.
Bravo, c'est une bonne enfant en matière.
Voilà, donc oui, un peu d'expérience en sciences à l'école, si vous voulez, mais un œil critique, oui, par rapport au texte qu'elle m'a proposé, oui. Et ensuite, on a avancé au fur et à mesure pour mettre tout ça en vie, donc aller vers le spectacle vivant de la manière la plus, pour moi en tous les cas, rythmée, parce que j'aime le rythme et le relief. Voilà, et ça a pris.
Spectacle dédié au darwinisme, la théorie de l'évolution. Pourquoi ce thème-là, tout de suite d'emblée, comme premier texte à écrire pour vous?
Alors en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens en France, parce qu'on ne va pas parler des États-Unis où là, il y a vraiment un gros problème, les religieux sont vraiment omniprésents, il y a énormément d'Américains qui ne croient pas en la théorie de Darwin.
Ouais.
Mais même en France, les gens la comprennent de travers, et même des gens qui ont des formations scientifiques, mais des fois, me sortaient des absurdités. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, mais personne ne la comprend correctement. Et il y avait déjà pas mal de choses qui avaient été faites, notamment pour les enfants, pour expliquer la théorie.
Ouais.
Donc l'explication de la théorie, c'est une partie du spectacle, mais j'ai voulu me pencher surtout sur pourquoi on ne la comprenait pas et pourquoi elle était vraiment pas acceptée,
ouais.
Et surtout de la part des religieux.
Et pourquoi on ne la comprend pas alors, selon vous? Parce qu'elle est complexe?
Je vais peut-être me fâcher avec certains vulgarisateurs, mais je trouve qu'elle est mal expliquée souvent et on la présente plutôt comme la théorie de Lamarck. On a l'impression qu'il y a une évolution qui se fait parce qu'il y a un problème environnemental et puis à l'échelle d'un individu, l'individu va se transformer par miracle comme comme ça, on ne sait pas d'où ça vient. Alors que non, ce n'est pas du tout ça la théorie de Darwin. Il y a des mutations aléatoires et ensuite une sélection naturelle. Et la place du hasard dans la théorie de Darwin est très rarement expliquée. Mmh. Et c'est important d'en parler.
Ouais. C'est très bien expliqué dans le spectacle.
N'est-ce pas?
Il me semble.
Vous savez le vendre, bien sûr. Alexandre Tèche, comment on s'attaque justement à un texte de science comme ça? Parce que c'est vrai qu'il faut, il faut garder le contact avec le public. Quoi, et
exactement.
Essayer de maintenir l'attention, la dynamique.
Exactement. Je pense que il y a une complémentarité qui s'est faite, enfin, très rapidement, entre mes connaissances, mon savoir-faire dans le milieu du café-théâtre et sa manière de vulgariser. Mmh. On s'est très bien entendu, mais c'est vrai que les ficelles, je vais dire, d'animation du spectacle en lui-même, c'est-à-dire les dialogues qu'on a pu injecter, si vous voulez, dans cette démonstration, mmh. c'est quelque chose sur le que j'ai pu prendre en main et si vous voulez partager avec Marie au fur et à mesure.
Ouais. Ouais, on a plein de personnages, c'est très dynamique, c'est pas du tout une conférence, donc là on est vraiment dans
on est sur une base de conférence, effectivement, et Marie est sur scène, le format Marie est sur scène en permanence, et le deuxième comédien, en l'occurrence moi, endosse une dizaine de rôles
c'est
différents.
Ça.
Et c'est ça qui va susciter la polémique. Et c'est ça qui va donner du rôle. Voilà.
En tout cas, on avait perçu dès 2014 la graine de comédienne lors de votre présentation de ma thèse en 180 secondes qui vous a valu d'arriver donc première sur le classement national. En voici à nouveau un extrait pour voir un petit peu ce qu'est devenu Marie-Charlotte Morin.
L'idée, ce serait de remplacer ces cellules manquantes, comme les neurones qui meurent chez les malades d'Alzheimer, par des cellules disponibles directement chez le patient, comme celles qu'on trouve sous la peau. Donc on les obligerait à changer d'identité cellulaire. Ok, dit comme ça, ça paraît un doux fantasme de chercheur qui se prend pour Dieu. Ouais, ça nous arrive assez souvent. Mais en fait, ça existe déjà dans la nature, et c'est un de ces phénomènes naturels que j'ai étudié pendant ma thèse. Alors, il prend place dans ce petit verre, hein, il fait 1 mm, on a 50% de gènes en commun, et phénomène absolument fascinant, vous avez vu une cellule de son rectum qui va avoir une sérieuse crise identitaire. Alors, un peu fâchée de sa condition rectale, hein, là, on va avoir envie de changer de vie, donc elle va migrer, elle va se détacher complètement de ses copines rectales, va migrer un peu plus loin et se transformer en neurone parfaitement fonctionnel. Un peu comme un Français qui viendrait au Québec pour avoir une vie meilleure, vous voyez, hein, et voilà. Sauf que là, c'est beaucoup plus rare, hein. Normalement, ça arrive jamais. Dans le monde des cellules, une cellule adulte reste cantonnée dans son destin cellulaire jusqu'à sa mort. Autant vous dire que c'est l'ascension sociale inespérée pour une cellule.
Voilà, et on avait beaucoup ri, hein, Axel, oui. Quand on avait entendu Marie-Charlotte.
On sent déjà l'obsession de Dieu aussi, hein, dans cet extrait. Quand même. La religion était là, déjà.
C'est ça. La politique aussi, oui.
Ouais, tout ça, ouais.
C'est ce qui vous a valu de gagner, au fond, le recours à l'humour pour présenter votre thèse, hein.
Je pense, et puis vous avez dit une comédienne, mais c'est complètement faux, je suis une imposteur, je ne joue jamais. Mmh. Je suis exactement
vous
moi.
Vous êtes tellement drôle dans la vie.
Non, pas du tout. Non, mais je suis comme ça, et je parle sur scène comme je suis exactement. Mes collègues m'ont dit, ah, mais c'est toi, en fait. En fait, c'est toi, quoi.
Bon, voilà. Alors maintenant, il faut aller vous voir à Strasbourg, donc sur le campus le 5 octobre, et puis au Camionneur, toujours à Strasbourg, le 6 et 7, et puis pour les Parisiens, 21, 22, 28, 29, au théâtre de la Reine Blanche, ce lieu dédié à la science qu'il faut encourager, parce qu'ils font un travail magnifique de conférences, d'accueil des scientifiques. Il y a un vrai amour pour la matière scientifique. Donc, il faut vraiment aller au théâtre de la Reine Blanche. Et toutes les infos sont bien sûr en lien sur le site de la Tête au Carré. Merci beaucoup. Passez un bon week-end. Et puis, Axel, merci. On vous retrouve avec String Theory, hein, en vidéo sur YouTube.
On se retrouve lundi aussi.
Et oui, avec la Une de la Science. Ciao.